qui parle en ce moment de ses premières œuvres. Hein,
les vêtements, qui, tout le côté là avec le tout ça, c'est pas vu comme ça.
C'est une œuvre qui est par contre emblématique, je pensais, sur la question, une des questions qu'on peut retenir de Courbet, c'est cette idée, c'est un terme là. C'est un peu un jargon de plasticien, c'est la frontalité. Hein, nous on a des mots pour désigner la planéité aussi, la planéité c'est la qualité de plan d'une surface sur laquelle on peint. C'est vraiment aussi, alors ça c'est chez Courbet, on l'a vu la dernière fois, Courbet est un peintre réaliste, non pas du tout dans l'illusion de la réalité, mais dans la mise en scène d'une réalité, y compris la réalité de la peinture, c'est-à-dire le fait de peindre. Peindre, c'est barbouiller une surface plane avec de la boue et une brosse. Et les brosses, c'est bête, mais il y a un moment où il faut rentrer dans le corps, au sens strict de l'acte artistique. Mmh. Comme le faire la soufflé dans un studio, hein, bon. Il y a un moment où il faut revenir au principe de base. Et ensuite, on va voir effectivement les implications. C'est un peu ce que Courbet aborde, c'est les implications de cette question de la surface et du premier plan. Surtout qu'une des illusions de la peinture, c'est montrer au loin. C'est la métaphore de la fenêtre ou du miroir. C'est montrer quelque chose qui n'est pas là. Et Courbet, au contraire, veut montrer ce qui est là, ce qui est à portée de main. Hein. Alors, c'est quelque chose, si on remonte un petit peu en arrière, qu'on trouve un peu comme chez Caravage. Mais Caravage, il va faire un miroir total pour qu'on ne voit pas au loin. Comme de la tour, comme Artemisia Kanislavski, vont boucher le fond pour mettre en évidence le premier plan. C'est quelque chose que beaucoup de peintres ont toujours pensé. Les peintres ont toujours su qu'ils travaillaient sur une surface. Et certains en ont joué. Et Courbet l'affirme, par exemple, regardez, c'est dans les cribleuses, même la surface qui est derrière est comme une sorte de toile blanche, ou comme un écran. Et puis vous avez ici des ombres projetées, des ombres sans doute d'une comment on appelle ça là, une pergola, ou ce genre de choses, ou clair, etc. Et puis vous avez des surfaces, une toile libre, c'est tout. Attention, Courbet est quelqu'un de très subtil. Si vous avez une toile aussi libre par terre, c'est durant la toile sur laquelle il crible le blé, mais il faut savoir qu'une toile tendue, une toile à peindre, c'est une toile libre qui peut être tendue plus ou moins. Donc vous avez des jeux comme ça qui sont subtils hein, chez Courbet. Alors je vais continuer sur Courbet, mais là, pour un petit rappel, alors on n'est pas encore dans l'art abstrait évidemment à hein, Courbet, on n'est pas du tout dans ce genre de choses, ni un art minimaliste, c'est quelqu'un qui vient quand même, qui est en plein 19e siècle, donc il est aussi un héritier de son temps. Alors, derrière, parfois, derrière le travail de Courbet, il y a aussi des intentions, ou peut-être pas des intentions, mais une prégnance du fait social. On l'a vu avec les casseurs de pierre la dernière fois. Ici, c'était très clair, hein, les casseurs de pierre. Toile disparue, je ne sais même pas comment j'ai réussi à cette reproduction de qualité. Bonjour, pour une peinture qui a disparu pendant la guerre, dans les bombardements. Donc le fait social n'était pas non plus un fait, on va dire, de dénonciation, hein, puisque pour Courbet, il s'agit surtout de montrer ce qui n'avait pas lieu, qui n'est pas droit au chapitre, hein, dans la société du 19e siècle. Notamment les classes travailleuses, les classes populaires, etc. Et chez lui, il y a toujours cette idée aussi qu'il parle de ce qu'il connaît, parce qu'il vient d'un milieu plus ou moins rural, provincial, et donc il y a aussi cette manière de montrer, quand il monte à Paris, mais il veut montrer aussi à Paris ce qu'est... il y a des chaises... Donc, vous voyez, cette idée aussi, c'est une sorte de révélation.
S'il vous plaît. Il n'y a pas le sentiment de souffrance qu'on peut voir
non.
pour le
classe chez lui, c'est
laborieuse.
Voilà, on va trouver ça chez Millier un petit peu, encore que. Mais il n'y a pas l'idée que ce travail c'est vrai. C'est au contraire, il y a une sorte de dignité du travail, une certaine force de cette espèce de classe travailleuse, classe laborieuse. Là, ce qu'on a dit parfois, c'est qu'effectivement, c'est, je vous avais dit, une évolution du. Comme si c'était une évolution aussi du progrès, du. Trier grains de blé 1 à 1, puis au tamis, puis ensuite une machine à cribler, avec une sorte d'ouverture vers le mystère, hein, le jeune garçon aussi, qui est donc une image du futur, et qui regarde là une sorte de machine, hein, quelque chose qui arrive dans les campagnes, avec une sorte de cribleuse mécanique. Et chez Courbet, il y a toujours des jeux colorés qui sont subtils, mais qui sautent pas aux yeux. Hein, mais il y a souvent des harmonies colorées, regardez celle-ci en rouge et ocre, celle-ci hein, en jaune, vert, ocre, il y a aussi des. L'air de rien, c'est un fin coloriste bien qu'il apparaisse surtout pour des sujets qui semblent un peu lourds, etc. On a vu le veau blanc aussi, une sorte de gamme de blanc. Alors, l'autre jour, vous me disiez, vous aviez l'impression effectivement que certaines de ces figures semblaient être un peu collées, pas tout à fait raccord avec le décor. Et là, par exemple, avec les lutteurs, c'est quelque chose qui est très clair. Regardez, ils ont à peine d'ombre portée, alors qu'ils ont une ombre propre très forte, puisqu'ils sont cernés ici de sombre, il y a un dégradé très fort, alors qu'au sol, ils n'ont quasiment pas d'ombre portée. Hein, on ne voit pas d'ombre portée, ce qui est un paradoxe. Hein, normalement, ils auraient pu être inscrits dans le paysage, dans le sol, par la projection de leur ombre. Ce qui donne d'ailleurs l'impression qu'on est presque devant une sorte de toile peinte, presque avec. Ce ne sont pas des aplats, mais pas loin, et sur lesquels ces corps sont presque un peu comme plaqués.
Comme au cinéma.
Oui, un petit peu, mais alors ce qui est drôle, c'est que sur le fond, ça aurait pu marcher, mais au sol, si on s'est caché les pieds, on pourrait avoir l'illusion. Mais donc, chez Courbet, on n'est pas du tout dans l'illusion, il s'agit d'une présentation. Le réalisme chez Courbet n'est pas du tout un jeu sur l'illusion. Alors, le sujet lui-même, les lutteurs, ça va être, alors je vous montrerai tout à l'heure les caricatures faites par les caricaturistes sur Courbet. Et par exemple, de cette peinture, certains ont poussé des hauts cris en disant « Mais d'abord, c'est quoi ce combat de charbonniers? Ils ne sont pas lavés, ils sont sales. C'est peint avec du goudron. Parce que cette espèce de presque du contour noir, etc. Plus ces lutteurs dans des postures qui sont des postures qui ne sont pas du tout la lutte gréco-romaine, par exemple, cette dignité classique. Vous avez au contraire ici une musculature qui fait un peu peur. Si la musculature, c'est un art populaire en plus. C'est la lutte populaire, qui n'est pas ici dans un grand salon, c'est dans la campagne avec une sorte de tribune plus ou moins comme ça, et vous avez qui est-ce qui lutte, c'est pas des professionnels, c'est donc des gens qui ont une force physique naturelle qui vient aussi de leur travail. Donc c'est souvent classe laborieuse, classe dangereuse, parce que cette force populaire, c'est quelque chose qui effraie pendant tout le 19e siècle la bourgeoisie, et même encore maintenant, la force même physique. Donc vous avez chez Courbet, ici on est quand même dans les années 1860, 70, on s'approche de la Commune. On est entre 1830 révolution, 1848 révolution, 1870 révolution, sans compter les émeutes dont Victor Hugo parle, 1832, tout le reste. Vous avez donc une tension sociale qui est réelle, une lutte de classe qui est permanente, avec, on verra dans le cours prochain, une idéologie dominante qui est très bien comprise, qui sait très bien ce qu'elle attend. Donc vous avez derrière ça aussi, vraiment, une mise en scène, et pour Courbet, là, si, il ne s'agit pas d'être un... Il n'a pas dit que c'était des ouvriers, il n'a pas dit... Mais il trouve aussi qu'il y a une musculature beaucoup plus naturelle que dans un sportif ou un héros grec, etc. Vous avez aussi, là, une fascination pour des corps qui ne mentent pas. Ça, c'est typique chez Courbet, il veut des choses qui ne mentent pas. Hein, et y compris, par exemple, les postures de cette lutte-là. C'est pas des poses, hein, elles ont même quelque chose, parfois, qui peut être un petit peu à la limite du ridicule, mais pas loin, hein, avec le personnage qui a la tête tension en avant, l'autre qui lui fait une sorte de clé, etc. Et Courbet, il sait très bien aussi qu'il s'inscrit dans une vieille tradition de la lutte. Alors, les luttes de Cain et Abel, de Jacob avec l'ange, on va trouver des termes de lutte dans la tradition mythologique ou biblique, et lui, il réhabilite ça avec une présence. Alors là, vous voyez, il y a un paysage, mais le paysage semble un petit peu ramené, hein, comme s'il n'était pas totalement inclus, comme s'il n'y avait pas du tout le même modelé ni la même lumière. Alors ça, c'est assez typique de ces audaces. Alors, dans la peinture de Courbet, j'en étais au versant social, et bien par exemple, voilà un portrait du philosophe Proudhon, qu'il a fait juste à la mort de Proudhon. C'est même pas sûr qu'il l'a rencontré, bien qu'il soit pays, comme on dit, ils sont tous les deux de la Franche-Comté. Et Proudhon est ici représenté, là, pas du tout sur imaginé à l'époque, comment se font, vous vous souvenez, j'en parlerai peut-être plus tard, sur ne serait-ce que, par exemple, le monument à Balzac fait par Rodin, choque beaucoup, parce que c'est un monument extrêmement audacieux au niveau artistique, au niveau sculptural. Donc, en général, pour un hommage à un grand philosophe, un grand écrivain, etc., il y a toujours une sorte de scénographie, idéalisation, etc., avec l'idée du socle, l'idée du penseur. Là, vous avez au contraire, Courbet ramène très clairement Proudhon au premier plan, avec les attributs ouvriers, la blouse et le blue jean. Alors, je dis blue jean, vous savez très bien que ce bleu, c'est un bleu français, qui a donné le blue jean, c'est le bleu de Nîmes.
C'est bleu jean.
Voilà, c'est bleu, etc. et quand on dit de Nîmes, hein, c'est de Nîmes qui c'était les bleus qui venaient de la région. Donc c'était un signe distinctif très très clair, hein, de classe, y compris le blouson, la blouse plutôt ouverte. Il est assis sur les marges de sa maison, dans la nature tout de même, une sorte de verdure, avec les cahiers ici et l'encre qui sont aussi de véritables objets. Ce n'est pas des choses abstraites, ce sont des objets qui sont posés par terre, donc en contact avec une réalité. Proudhon n'a pas l'air du tout d'un fou furieux anarchiste qui est anarchiste, prêt à tout casser, etc. Il semble au contraire extrêmement posé, méditatif, et chose étonnante, parce qu'en plus Proudhon n'était pas le milieu du point de vue de l'égalité hommes et femmes, du féminisme, mais pourtant on voit les deux filles de Proudhon, dont l'une joue à la dinette, mais l'autre apprend déjà à écrire et à lire. Alors que l'école était ouverte aux filles, etc. Les écoles ouvertes aux filles, c'est un enjeu qui va durer jusqu'au XXe siècle. Pour le petit détail, Rosa Bonheur, dont on a réhabilité le musée, là, qui est près de chez moi, à Thomery, près de Fontainebleau, un jour, allez-y, c'est super. Rosa Bonheur avait gagné tellement d'argent, elle était fille de Saint-Simonien, et qu'elle a réussi à imposer à sa mairie d'ouvrir une école pour filles. Mais dès qu'elle est morte, ils ont refermé l'école. Donc, vous voyez, et pour Rosa Bonheur, c'est presque 1900, hein, donc c'est plus tard. Vous voyez que là, représenté de la part de Courbet, ces deux filles, hein, dont une est dans une sorte de posture, on va dire, plus la fille de la dîner, etc., mais quand même par terre, elles n'ont pas du tout ce côté petite poupée, etc. Elles ont l'air d'une certaine liberté, d'une certaine autonomie, hein, sous une bienveillance de leur père, avec leur mère peut-être absente ici, qui s'est partie, qui avait son panier, etc. Et puis, dans une sorte de nature un petit peu brute et sauvage, enfin sauvage, non mais peu transformée, donc une simplicité, un premier plan, et vous avez toujours chez Courbet un tout petit bout de ciel, hein, toujours cette idée que c'est pas la peine d'aller regarder au loin, pensons d'abord à ce qu'au premier plan. Donc derrière cette franchise, il y a beaucoup de subtilité, et puis, si on regarde de près les taches et les touches, là aussi, ils sont très délicates. Hein. Vous voyez bien aussi qu'on n'est pas dans l'illusion, c'est-à-dire qu'il ne va pas dessiner feuille après feuille. Il y a la volonté de traduire, hein, la réalité avec une gamme de verres aussi, un chromatisme extrêmement subtil. Et donc, chez Courbet, alors, là aussi, l'espèce de modernité des vêtements, hein, on est quand même en plein 19e, il y a quelqu'un qui s'écarte, hein, de cela. Chromatisme aussi délicat de Courbet dans ses harmonies, vous avez du rouge, du jaune et du bleu, donc il donne des touches colorées dans un ensemble qui était un peu pour faire vert, brun, etc. Donc une finesse. Et puis la sympathie quand même pour les idées de Proudhon, évidemment. Ça, vous voyez, on est quand même. La première internationale se met en place dans ces années-là, Marx, Proudhon, Bakounine et d'autres, etc. Vous avez donc, y compris en France, vous avez beaucoup d'acteurs qui pensent l'affaire. Manifeste du Parti communiste, c'est 1848, hein, donc c'est au moment de. Marx a écrit la guerre civile en France en 1948. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose qui n'est pas du tout, qui est totalement présent dans la tête d'une bonne partie de la population, même des artistes et de certains intellectuels, qui sont comptés évidemment les classes en mouvement, hein, que l'on trouve ici. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ne montent pas la rue, ils ne montent pas, la ville moderne. Hein, vous êtes, là aussi, Courbet se détache un petit peu aussi de l'anecdote. Voilà. Alors qu'une bonne partie de la pensée socialiste, elle vient des constats faits dans les villes, dans les nouvelles usines. Pour Courbet, il ne s'agit pas non plus d'être dans un discours. Il s'écarte même un petit peu. C'est même étonnant de voir un Proudhon, là, dans une sorte de élément presque de nature. Alors, Courbet est aussi, alors pour revenir au gros blanc, hein, c'est... Courbet a été un peintre animalier, hein, on l'a vu avec le veau, et on va le voir par exemple avec la truite. Hein. Moi, avant, quand j'étais plus jeune, j'ai dit que c'est ce truc-là, ça m'a fait ça. Et puis quand je l'ai vu en vrai, de près, et qu'on s'approche de la peau, hein, les écailles de cette truite, alors j'espère que ce soit si le document est suffisant, mais c'est en fait d'une très très grande délicatesse. C'est que Courbet, derrière des mises en scène qui ont l'air un peu brutes, comme ça, avec des sombres assez forts, des traces contrastées, etc. Même des figures qui ont l'air souvent un peu posées, peu élégantes, même les lutteurs ont l'air d'un petit peu lourds, il y a toujours une sorte de rapport au sol, Mais en fait, quand on regarde sa touche, elle est parfois même peinte avec beaucoup de délicatesse. Des transparences, des jus, ce qu'on appelle des jus, c'est des glacis. C'est-à-dire que la peinture est mêlée avec des médiums très transparents qui vont être superposés. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout une peinture épaisse, en fait, chez Courbet. C'est souvent fait avec une très très grande finesse de ton et même de matériaux et des effets de transparence. Et vous avez aussi, dans ce bel animal tiré de son milieu et mourant, on a pensé, et certains ont dit que c'était aussi comme une sorte de d'autoportrait quand Courbet se sentait pas bien, seul, incompris dans Paris, etc. Donc cette idée qui était tirée de son milieu, voilà, c'était une force puissance, mais qui ne réussit plus à nager, etc. Donc il y a chez lui parfois des sortes de clins d'œil. On verra assez souvent chez Courbet des animaux blessés ou mourants, hein, des animaux qui sont faits pour vivre libres, hein, dans toute leur puissance. C'est quelque chose qu'on verra assez souvent. Alors là, cette idée de la frontalité, on la voit très clairement. Hein. La rivière est à peine vinifiée. Vous avez aussi une homogénéité chromatique. Et puis, ce qu'il met en, j'allais dire, le pelage, c'est la peau de la truite, hein, comme le pelage du veau, etc. Toujours cette qualité de surface, hein, et y compris des pierres. Voilà. Alors ça, c'est la truite. Alors, je crois qu'il y a un objet d'orsay. Alors, évidemment, voilà, avec quand même une grande machine de Courbet. L'enterrement à Ornans, alors que vous avez dû voir l'Orsay, évidemment, gigantesque peinture, quasiment 8 mètres de long, sur presque 3 mètres de haut, qui fait histoire, hein, elle fait date dans l'histoire de l'art, un petit peu comme le radeau de la Méduse, qui est quelques dizaines d'années avant, hein, pas tant que ça, hein, parce qu'on considère, alors ça c'est dans la doxa un petit peu de l'histoire de l'art, que ce sont les deux premières grande peinture en dimension qui traite de sujets qui ne sont pas grands. Déjà, le radeau de la Méduse, c'était un fait divers. Ça s'est dit, c'est quand même un fait divers dramatique qui avait remué beaucoup de foule, qui avait une dimension politique, etc. Courbet pousse plus loin, on va dire, le bouchon en faisant en une très grande dimension un enterrement d'un ou d'une inconnue dans une ville, un village qui est quasiment inconnu, Ornans, sa ville natale. Que personne ne connaît à Paris, moi je suis jamais allé, je sais à peine où c'est, j'ai plus maintenant. Et vous avez donc ici quelque chose qui est une affirmation, mais gigantesque, majeure, d'une banalité. C'est une banalité pour les autres. C'est un enterrement à Ornans, tout le monde s'en fout. On a quelque chose de quelqu'un en plus dont on ne connaît pas. Et pourtant, Courbet en fait un très grand sujet. Alors là, Courbet arrive du réalisme aussi à une subjectivité absolue. Puisque lui étant d'Ornans, la mort de quelqu'un à Ornans, pour lui, ce n'est pas indifférent. Donc il va d'abord affirmer de façon, alors là, manifeste au sens strict, Courbet c'est quelqu'un qui fera d'ailleurs des manifestes réalistes, qui va écrire, on verra plus tard, qui va même ouvrir une boutique quasiment, il va avoir des actes qui sont des actes pour revendiquer son point de vue, sa manière de voir. Et ça, cette peinture, c'est déjà aussi une sorte de, on dit une peinture manifeste. C'est une façon de dire, ben, moi, je peux vous parler de ce que je connais, ce qui pour moi a une importance majeure, la mort d'un proche dans un village, dans mon village, quoi de plus important pour quiconque que de la mort d'un proche? À la limite, c'est peut-être la chose la plus importante au monde. Et donc, il en parle, il le montre, et il l'étale, et il nous fait partager, alors là, son point de vue, dans tout, avec le minimum de distance. Alors là, on peut dire que Courbet, c'est quelqu'un qui n'est jamais dans la distance, justement. Que ce soit par la dimension, les gens là, sur échelle 1, comme on dit, quasiment, voire presque un peu plus grand, ils sont, alors là, ils affirment la frontalité de façon, là encore, c'est presque un discours, puisque si vous voulez, les gens, vous avez sur tout ce premier plan, sauf qu'il y a la tombe ici, la fosse creusée au premier plan, le cercueil est derrière, là, et vous avez ces gens qui font une sorte de queue-leu-leu, ils sont même étagés, même pas les uns derrière les autres, ils auraient pu une sorte de foule avec une foule qui s'éloignait. Vous avez quelque chose qui est affirmé au niveau du plan. Là, le paysage derrière est limité à des surfaces, y compris la falaise. Le ciel est presque bouché par des nuages sur les surfaces. Vous avez une légère dépression qui laisse apparaître un crucifix sans aucun lyrisme ni mysticisme, dans une sorte de banalité du quotidien. Alors, par contre, je ne réussis pas à avoir une bonne définition. c'est un crucifix banal, il n'y a aucun lycée des crucifix 19e siècle, un petit peu moche là, qu'il y a dans toute cette période. C'est pas grave. Les échevins, le curé ont l'air de faire leur boulot. Le bedeau a l'air plus ou moins un peu niais. Ici, bon, la famille ou les gens qui portent le cercueil. Les enfants de cœur ont l'air de s'ennuyer. Il y en a qui font leur rôle. Les fossoyeurs attendent. Par contre, effectivement, la famille ou les proches sont représentés. Alors, la tête par tête, il a fait poser tous les gens. Et là, il les a fait vraiment poser. C'est une véritable galerie de portraits. On reconnaît d'ailleurs. Je crois que c'est son père ou son grand-père qui était dans la peinture un après-midi à Ornans. Hein, et alors moi, je ne sais plus exactement qui est qui. Mais vous avez donc là un culot assez incroyable. Courbé fait une énorme machine, simplement pour dire, pour un propos, c'est montrer que son point de vue, il est légitimé de son point de vue. Pour affirmer son point de vue, au sens subjectivité totale. Ce qui est important pour moi, et là, je le propose. Et donc, à la limite, je suis incontestable aussi. Vous ne pouvez pas. On ne peut rien dire, puisque j'ai affirmé tout simplement ce qui pour moi était important et compté. Et je vous le mets sous le nez. Et je vous le présente. Donc là, il y a quelque chose qui est une sorte de défi. Il n'y a aucune histoire, aucune narration, aucun mysticisme, aucune. Il n'y a même pas de travail sur la mort, sur la vie de la personne, etc. On est vraiment là. Simplement, comme si on était invité à participer à cet effet de banalité, hein, très terne, d'un quotidien sans aucune dimension spectaculaire. Si ce n'est la taille et la présence. Alors ça, rendre présent le réel, c'est vraiment ce que Courbet veut affirmer, et il s'en donne les moyens. Alors, après... reste la peinture, justement. Parce qu'après, si on n'est pas intéressé par le sujet, si on n'est pas ému par la mort, s'il n'y a pas d'histoire à raconter, mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est pour ça que Courbet aussi est un réaliste. Ben, regarde la peinture, regarde la façon dont c'est peint. On va rentrer, quand vous avez le nez collé dessus, ben, vous regardez la terre, vous regardez les habits, vous regardez les nuances, vous regardez les surfaces, vous regardez la qualité des noirs, vous regardez ses portraits. D'ailleurs, les gens qui avaient posé n'étaient pas très contents, parce qu'ils se trouvaient moches, etc. Il n'est pas embelli non plus. Il y avait cette idée aussi que. Donc Courbet fait en sorte de ne plaire à personne, parce qu'il ne plaît pas du tout aux Parisiens, il ne plaît pas aux gens de sa commune, parce qu'ils se rendent bien compte qu'ils n'ont pas du tout été idéalisés, etc. Donc vous avez Courbet souvent sur une ligne de crête, hein, et ça c'est clair, mais il a totalement confiance en lui-même, hein, et on va le voir un petit peu justement.
Le chien, c'est...
Alors le chien, alors bon après les chiens dans l'histoire de l'art, c'est souvent associé à la fidélité, hein. C'est aussi la figure animale, justement. Hein, justement, il ne faut pas avoir de symbolisme chez Courbet. Hein, on peut. Alors, l'idée, quand même, que la fosse est le premier plan, comme pour nous. Ça peut être nous. Hein, il y a cette idée, quand même, de nous rappeler la mort. Et dans cette peinture, je préfère éviter toute, on va dire, interprétation allégorique. Alors que là, Courbet. Dans l'atelier, qui est au musée d'Orsay fait face quasiment à un ferment ordonnance, là Courbet assume totalement une peinture absolument paradoxale, puisqu'il s'agit de l'atelier du peintre ou allégorie réaliste. Une allégorie réaliste, on dirait que c'est un oxymore quasiment. Hein, puisque... Et là encore, c'est une peinture manifeste. Il y a un moment où Courbet sait parfaitement ce qu'il fait. Et veut prouver au monde parisien, alors, on verra qu'il était réputé, qu'il était connu, c'est un personnage dont d'ailleurs on se moquait, ou qu'on admirait, qui était un véritable enjeu, hein, il y a presque des disputes esthétiques autour de Courbet. Pour vous rappeler, en 1856, c'est là où l'Assemblée vote la censure sur les fleurs du mal et sur Madame Bovary de Flaubert. Donc, si vous voulez, il y a les productions artistiques sont des enjeux politiques et sociétaux. Donc, c'est pas étonnant que Courbet soit dans cette espèce de bataille esthétique. Et juste pour faire court, et puis je reviendrai plus tard, les élus, les parlementaires, les religieux, etc., accordent une importance énorme à la question de l'image et de la représentation. Parce qu'il n'y a pas de télé, il n'y a pas de radio, si vous voulez, donc, vous voyez, la presse existe. Mais donc, si vous voulez, la représentation, y compris du pouvoir ou des valeurs véhiculées par. Le nouveau pouvoir, qui n'est plus le pouvoir aristocratique, ce sont des enjeux très importants qu'on a du mal un petit peu à à concevoir maintenant. Mais au XIXe siècle, c'est important. Et les artistes, d'ailleurs, des gens comme Courbet, veulent participer au débat politique, hein, ou esthétique. Juste une chose aussi, la dimension, pourquoi aussi avec Proudhon, l'idée de question anarchique, au sens positif du terme, c'est l'absence d'un pouvoir central, etc. C'est l'idée derrière le principe proudhonien, c'est l'idée que chacun est légitime. Dans l'expression de l'anarchie, c'est l'idée que chaque individu a son mot à dire, c'est bon, démocratie directe, au sens strict. Dans la démocratie directe, il faut que chacun affirme, et chacun est donc légitime à affirmer son point de vue. Donc vous avez, quand Courbet pratique une sorte de subjectivité artistique absolue en disant, ben, c'est moi, je vous parle de ce que je connais, et voilà, je vous le présente, c'est presque un geste aussi démocratique au sens premier du terme, au sens de démocratie directe. C'est qu'il il propose, il n'impose rien, il dit, ben, voilà, faites entendre, vous parlez de ce que vous connaissez, avancez vos pions, sans illusion, sans discours, etc., mais parlez. Bien avant le XXe siècle, on disait qui tu parles, d'où tu parles, etc., etc. Et bien Courbet le montre, le fait. Il dit voilà qui je suis, d'où je parle, ce que je dis, ce que je sais, ce que je montre. Donc Courbet, en fait, est assez vite compris aussi comme quelqu'un qui est politique au sens très profond du terme. Parce qu'il n'est pas dans un discours idéologique, il est dans une pratique démocratique, puisque justement, il est libre aussi. Et il fait acte de liberté. Alors. Dans cette peinture, il se met au centre. Et bien d'abord, pour qu'il y ait une peinture, un peintre, il y a un peintre. Donc je me mets, moi, en train de peindre, un paysage. Alors le paradoxe, c'est qu'il peut un paysage, mais il est dans son atelier, on ne voit pas le paysage. Il est donc dans une sorte de nature première, hein, avec les éléments, les végétaux, les cieux, etc. Peut-être sa vieille origine un petit peu romantique. À côté de lui, vous avez donc la nature végétale, la nature humaine, avec ici la femme s'amuse, etc. La nature animale avec la fille, la mère humaine, c'est l'enfant, l'animal. Et donc ça c'est un peu une sorte de... C'est proche, les choses qui sont peut-être les plus intenses auprès de lui. Hein, c'est quelque chose qui l'aspire, qui sont aussi dans lequel il y a une affection, il y a une intimité, et il y a une sorte de, d'ouverture au sens strict. La fenêtre, les émotions amoureuses ou érotiques, l'enfance, l'animal, la proximité. Alors déjà... Quelque chose qu'il affirme, c'est un paysage qui n'a rien de spectaculaire. La femme ici est une femme qui ne correspond pas du tout au stéréotype du XIXe siècle, des nues de beurre blanc, comme disait Baudelaire, hein, donc des nues totalement post-académiques ou post-classiques, que l'on verra la semaine prochaine en grande quantité, comme ça vous verrez, je vais bombarder de beurre pompier, vous allez voir, c'est assez drôle, mais à la fin, c'est vrai que, waouh, c'est... C'est récurrent. Et donc, on prend un parti pris délibéré de montrer des corps qui sont totalement. Mais parce que c'est sa compagne, ou c'est sa muse, et il a dit pour lui, il n'y a pas de plus grande trahison que de ne pas la représenter. Il se présente à nu, et si c'est la femme qu'il aime, il la représente telle qu'elle est. Parce que pour lui, donc, cette vérité, c'est incontestable. Donc, il ne s'agit pas là de plaquer des stéréotypes de beauté, il s'agit de présenter ce qu'on aime. C'est un paysage, une truite, un type de sensualité, etc. Et il la représente ici. Et elle n'est pas dans le rôle d'une muse passive ou d'un modèle passif. Elle regarde de façon intéressée le paysage, ni condescendante, etc. Donc elle a un côté actif, hein, et elle est donc là dans une sorte de complicité.
Mais, excusez-moi, alors, quel est son rôle par rapport au peintre? C'est pas un modèle. Elle est
non, justement.
C'est elle est avec les gens.
Elle est avec lui, elle est proche. C'est un peu l'idée de son intimité, c'est ce que je venais de dire. La proximité et une complicité aussi. Complicité, parce que c'est, on la verra souvent, hein, et il servira aussi de modèle, de référence, et c'est aussi ben, l'affirmation de la subjectivité absolue de Courbet en matière de goût, hein, de sensibilité. Et à côté, alors c'est là où c'est une allégorie, c'est qu'il va peupler son atelier, mais c'est un peu comme, alors pas des fantômes, mais des idées. Alors, du côté justement de la femme, vous avez tous ses amis proches. Alors ici, les spécialistes ont reconnu. Le critique d'art Champfleury et le collectionneur de Montpellier, là, j'ai oublié tout le nom, Brujas ou Brujas, je crois. Ou Brujas, j'ai oublié son nom. Vous avez aussi celui qui va lui commander l'origine du monde, je crois qu'il est celui-là. Vous avez son grand-père ou son père, je ne sais plus lequel c'est, qu'on avait vu à l'enterrement en Anse et dans l'après-midi. à l'après-dîner à Ornance, un couple d'amis et ici Baudelaire, assis dans un coin, en train de dîner comme une sorte de caution culturelle et poétique, hein, parce que Baudelaire s'était toujours engagé auprès de Courbet. Avec, comme je l'ai dit la dernière fois, c'est assez étonnant parce que Baudelaire était montré comme une sorte de dandy parisien, spleen, romantique, mélancolique, et c'est pas du tout l'esprit quand on regarde Courbet. Mais Baudelaire voyait dans Courbet justement une liberté, de la franchise, de l'autonomie, quelqu'un qui dans son domaine faisait avancer, dépoussiérer ou dégager un peu le regard, etc. Donc Baudelaire aura une importance très importante pour lui, et là il montre ceux qui le soutiennent, ceux qui sont complices, alors, qui sont plus loin, qui sont un peu en retrait, un peu dans l'ombre, du côté de la lumière. Là, vous avez l'étoile ici, là, l'affirmation de la surface. Alors là, c'est courbé, la peinture, on montre bien que c'est une planche. Hein, et là, vous avez des cadres à l'endroit, à l'envers, dont on devine plus ou moins les traces, etc. Et puis un grand mur, une énorme surface, etc. Et puis ici, le tissu tendu. Et là, vous avez ben, le monde autour de l'actualité, autour de Courbet. Alors, les spécialistes ont reconnu, par exemple, les Garibaldiens, on est au moment de la lutte des Italiens pour l'affirmation de la nation italienne, hein, l'unité italienne. Donc c'était des luttes qui étaient en vogue. Vous avez aussi, par exemple, je crois qu'on voit ici une femme irlandaise dans la misère avec son enfant, etc. C'est la pénurie et la famine en Irlande à ce moment-là. Vous avez, on a reconnu ici un personnage au turban, donc c'est sans doute les luttes dans. Avec les pays musulmans, qui est une histoire contemporaine, il y en avait beaucoup. Peut-être l'Algérie, les Ottomans contre les Grecs, au XIXe siècle, c'est tout un enjeu aussi important. Il y a des Asiatiques, et un Asiatique ici aussi. Certains ont vu, je ne sais plus, hein, le colporteur, hein, le juif errant repéré, je ne sais où, etc. Un crucifix, plus ou moins, un peu moderne, d'une sorte de martyr contemporain, etc. Donc en gros, bah, c'est l'actualité du monde. Alors pour Courbet, c'est même si je suis dans mon monde, même si je peins la nature, je suis avec ma femme, avec un enfant, avec un chien, etc., eh bien, un artiste n'est jamais en fait tout seul. Même s'il affirme une subjectivité, etc., il draine avec lui, si vous voulez, une multitude de mondes. Hein, il fait partie du monde, même quand il s'isole. Et ça, c'est aussi. Et quand il travaille aussi pour ce monde-là. Donc, si vous voulez, l'artiste, en fait, n'est jamais seul. Il fait partie d'une collectivité. Et le monde, aussi loin soit-il, fait partie de son univers. Et en fait, c'est une tension entre ce qui est extrêmement proche et ce qui, au contraire, est extrêmement vaste, hein, que l'artiste a pour mission de synthétiser quelque part. Et cette allégorie réaliste, alors, là aussi, il y a quelque chose. Alors, c'est un travail très original parce que c'est complètement auto-centré. Ça, c'est la première fois que vous avez quelqu'un qui fait un travail autour de lui comme artiste. C'est quoi le travail de peintre? On a vu que Rembrandt l'a fait, Velázquez l'a fait, Artemisia Gentileschi l'a fait. Il y a pas mal d'artistes qui ont réfléchi à ce que c'était que peintre, mais jamais avec cette dimension presque sociologique, un petit peu, hein, de se montrer dans cette dimension. Et à cette taille-là, là aussi, vous avez quelqu'un qui raconte son histoire, mais en très très grand, comme ça. Hein, comme si c'était un sujet qui pouvait être aussi important qu'une scène de bataille, une scène mythologique, une scène religieuse, ou un portrait de guerre ou de triomphe. Donc vous avez là aussi, Courbet affirme de façon incroyable sa puissance. Alors voilà, une autre. Alors, très difficile à représenter, hein, en bonne qualité, parce que. D'abord, elle a été nettoyée, elle a longtemps été très très sombre, etc. Alors voilà un autre portrait de Baudelaire.
Mais est-ce qu'il les vendait? Alors,
pas ceci, là, c'était pas des commandes. Alors, on va voir. Alors, oui, justement, autour de Baudelaire, il y a beaucoup d'amateurs. Le collectionneur Champlery défendait son travail. Le collectionneur de Montpellier lui achetait aussi beaucoup de peintures. Il y avait des clients, effectivement, qui étaient. Il a toujours, en fait. Il a toujours réussi à vendre pas mal de choses, parce que sans être riche, etc., mais il a toujours réussi à trouver une clientèle.
Il ne s'est pas rejeté complètement.
Non, pas du tout. Parce que les débats étaient très aigus, donc si vous voulez, il y avait un peu, c'est comme la bataille d'Hernani. À lui, quelqu'un qui prenait part, comme Courbet, de façon aussi franche, au débat justement, entre l'espèce de post-néoclassicisme et au contraire, une sorte de peinture moderne, un peu âpre, un peu rude, mais qui s'affirmait, eh bien, il y avait avec lui. tout ce qui était entraîné par ça. Et puis en plus, tous les artistes qui faisaient gamberger sur l'affirmation de la subjectivité, la surface, etc. Et puis la dimension sociale aussi, qui est au XIXe siècle est très importante. Alors, évidemment, ce n'est pas du côté, on va dire, des riches, mais vous aviez des gens éclairés, hein, qui a été très amateur. Alors, c'est ce de grandes, c'est presque des peintures un peu polémiques. Hein. Alors, donc ça je passe un petit peu, ça je passe. Alors, à propos justement de cette espèce de... Alors, on l'a traité de mégalomane, mais là aussi, c'est cette fois qui s'appelle La rencontre ou Bonjour Monsieur Courbet. J'ai une grande peinture. Bonjour Monsieur Courbet. Donc, voilà, c'est... Alors, il est à droite, évidemment. À côté de lui, alors juste en face, je crois, les cheveux roux, c'est le critique d'art Champfleury, qui est donc un peu l'intellectuel. Et à gauche, c'est son ami collectionneur, qui lui achète plusieurs toiles, qui sont, je crois que c'est Montpellier ou Nîmes. Je crois que je révise. Et là, vous avez des choses qui sont encore une sorte de manifeste. Le peintre, ici, cette fois-ci, il est représenté, mais au travail. Il va, comme on dit, c'est lui, c'est un de ceux qui va inventer l'idée d'aller sur le motif, d'aller sur le terrain. Il est habillé quasiment comme un ouvrier, avec la blouse, avec le pantalon bleu, des sortes de guêtres anti-poussière, un sac à dos, si vous regardez bien, c'est le chevalet démontable, avec les toiles, les pinceaux, etc. C'est pas un sac à dos, c'est... Quand on regarde bien, c'est son attirail de peintre, ici, qui est représenté de façon très très claire, les petits pieds pour clac-clac-clac faire les pieds du chevalet, le chevalet qui monte, la boîte avec les peintures. Le côté, le bâton de marche, parce qu'il faut aussi arpenter le terrain vaste, la division que ça a laissé, il va sur le terrain, et il rencontre sur un ciel bleu là, aussi, une surface magnifique d'un bleu d'une très très grande délicatesse, qui semble pas avoir de nuance, mais qui est d'une, quand on regarde, d'une très légère nuance, et d'une qualité magnifique, d'une luminosité incroyable, sans effet spectaculaire. Donc là aussi, si vous regardez aussi, le vert ici est là aussi très délicat. Un paysage mort, il n'y a rien. Il n'y a pas de montagne, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas d'architecture, il n'y a pas d'arbre au premier plan, etc. Et pourtant, c'est de beaux plateaux à quelque chose de reposant, mais c'est aussi une grande surface qui s'étend. Et puis, vous avez le salut. Le salut, alors là, presque, tout d'un coup, ils ne sont pas à genoux, mais tout d'un coup, ben, des intellectuels et des amateurs qui, d'un coup, saluent l'ouvrier, saluent le peintre au travail, etc. Et lui, avec sa barbe, etc., qui accepte totalement le salut. Et c'est une grande peinture, et Courbet, et voilà, il montre ça, donc vous avez là encore une audace, et aussi la même chose que pour les lutteurs, vous voyez, l'ombre ne semble pas totalement raccord. C'est l'ombre d'un arbre, etc., mais les ombres propres des corps ici produisent une ombre qui est traitée sans beaucoup de modelés, sans beaucoup de dégradés. Là encore, hein, ça c'est quelque chose d'assez étonnant. Donc, Courbet réussit à présenter toujours un premier plan, un paysage extrêmement ample, et pourtant, tout en traitant la surface. C'est assez complexe. Hein. Et des corps campés, là, avec des qualités de couleurs très très délicates. Les bleus, les verts, les ocres, les bruns, les rouges, et puis l'anatomie. La lumière sur les visages, hein, quand on regarde bien. Là aussi, ça passait aussi très bien, parce que il y avait une technique, il n'y a aucune erreur d'anatomie, de modelé, etc. Donc là encore, une grande audace, mais totalement centrée sur sa personne et sur son rôle de peintre. Alors, regardez, alors ça, c'est, vous ne le trouverez pas sur Internet. J'ai essayé de le trouver sur Internet, mais je n'ai pas trouvé. J'ai un bouquin, j'ai scanné, j'ai agrandi, j'ai une photo comme ça. C'est, elle est très très rare, cette photo. C'est justement Courbet. Quand je dis qu'il affirme, il affirme avec énormément d'aplomb. Parce qu'effectivement, vous aviez ce qu'on appelait, bon, c'est l'équivalent du Festival de Cannes, vous aviez Avignon, si vous aviez le Festival In, et au début, c'est que vous aviez des toiles qui étaient retenues, avec plus ou moins d'enjeux, de disputes, donc parfois Courbet était accepté, parfois il était recalé, etc. Donc, les jurys, etc. Bon. Et Courbet en a eu un petit peu ras-le-bol, je simplifie. Et en 67, je ne sais plus quelle toile vous lui avez refusé, etc. Et au lieu d'en tirer un peu de honte ou de dépit, etc., il dit, bon, c'est des nuls. C'est nul. Donc, moi, je n'ai pas besoin du filtre de cette critique-là ou du jury. Il fait construire, pour montrer comme qu'il avait quelques moyens, il fait construire en face du salon un bâtiment en dur, donc ça a été construit relativement vite, mais enduit, crépi, etc., et avec exposition courbée. Exposition courbée, pavillon du réalisme, etc., et là, avec ouvert au public, etc., et en gros, ben, ceux qui n'ont pas voulu, venez le voir. Et donc, en face, donc, vous voyez, là, il affirme, il est plus capable de connu, et là, il s'expose au sens strict. Parce que là, il n'y a plus du tout le filtre. Quand vous étiez exposé au salon, vous disiez, ah, oh, le jury a mauvais goût, comme le jury a fait ça, ou au contraire, ah, ben, si le jury l'a mis, c'est ça. Là, il est en prise directe. Donc, le côté de frontalité de Courbet, on le retrouve y compris dans son rapport au public. Courbet, c'est un des premiers qui invente ce rapport nouveau à un public. Direct, y compris la prise de risque. Qu'on se moque de lui, qu'on dise, ah, c'est dégueulasse, c'est mal peint, ça pue, c'est ça. C'est ce qu'on dira parfois. Sa femme, le modèle, est l'aideron, tout ce qu'on veut, pourquoi il met la main, etc. Vous verrez que ça va vraiment aller assez loin. Et vous avez donc avec Courbet une sorte de franchise, mais absolue. Hein, une franchise absolue, et quand il décide quelque chose, il le fait à fond. Les peintures, son allégorie réaliste était 8 mètres de long, son lanterne en avance, c'est pareil. Bonjour Monsieur Courbet, c'est une toile aussi qui a l'échelle humaine. Et donc, il y a cette espèce de. Il force un petit peu, il pousse pour provoquer des réactions, pour faire avancer, y compris le goût. C'est comme une sorte de lutteur. D'ailleurs, s'il a fait les lutteurs, c'est que lui, il se voit comme ça. Alors, c'est un personnage, et on va le voir par exemple sur la question souvent des corps féminins aussi, qui lui seront beaucoup reprochés. Alors, cette peinture, je crois me souvenir qu'elle est au Petit Palais. Alors, Petit Palais, si vous y allez, souvent, il n'y a pas grand monde, et enfin, c'est peut-être dans le temps.
Oui, oui.
Et il y a des très beaux Courbet, justement. Ça, c'est demoiselles au bord de la rivière, et ce qu'on lui a reproché, c'est qu'elles avaient l'air d'être affalées. Elles n'étaient pas dans une pose gracieuse. Elles étaient plaf, comme si c'était laissé tomber dans l'herbe, un peu mollement. Elle, on va dire qu'elle a l'air d'une morte, hein, que son bras, ses bras n'ont même pas l'air, ou la moitié sous, ou plus. Ses habits sont chiffonnés en désordre. Elles aussi semblent affalées et passives. Elles sont de physique relativement rond, on va dire, légèrement ronde, etc., comparé au modèle de l'époque, et dans un paysage aussi, avec la barque. Elles sont toutes seules, ou avec des amis, etc. Et puis là encore, vous avez toujours le même type de paysage, des grandes verdures. Ici, un sol assez remarquable, hein, on verra les bouquets. L'eau très simplement évoquée, le ciel aussi très simplement évoqué, et là, elles sont vraiment dans un premier plan. Donc, on va critiquer la posture, l'habit, le chiffonnement, leur visage, leur attitude. Qu'est-ce qu'elles font là? Qu'est-ce que c'est que ces deux filles? Est-ce que c'est des... Elles ne sont pas des très jolies robes, c'est des robes relativement banales. C'est sans doute des jeunes femmes de classe populaire qui ont leur jour de congé, un petit dimanche à la campagne. Et vous voyez qu'en fait, avec Courbet là aussi, ce ne sont pas des muses, ce n'est pas une allégorie, ce n'est pas une mythologie, il n'a pas appelé ça Diane, ni Vénus, ni qui que ce soit. Vous avez aussi là encore une sorte de brutalité, frontalité, avec presque un corps à corps. Hein. Et ça, c'est quelque chose qui, vous voyez bien, comment très vite, on va passer de Courbet et ceci, à Manet déjeuner sur l'herbe, et puis à toute la logique des déjeuners sur l'herbe, et des petits instants volés aussi, des moments de bonheur intime, y compris pour des gens du peuple. C'est un truc tout bête, mais il y a une dimension sociologique chez Courbet aussi, c'est que finalement, paraissait de manière un petit peu épuisée et morte et lasse, se laisser totalement aller, mais entre copines en plus. Il y a quelque chose aussi qui est intéressant, parce que vous n'avez pas d'idée de narration derrière ça, et c'est sans doute chez Courbet, là encore, une sorte d'empathie pour ce type de corps. Là encore, le hamac, voilà, un superbe chromatisme, avec toujours quelque chose d'un peu lourd, proche de la terre. J'ai toujours trouvé, vous avez la terre, le sol, le premier plan, le corps pèse, elle semble un petit peu lourde, mais là encore, avec une nature foisonnante, un repos, du laisser-aller, mais dans cette espèce de... Ce qui est drôle, hein, un peintre réaliste, presque social, socialiste, hein, il sera engagé dans la Commune de Paris, on verra tout à l'heure, hein, mais la plupart du temps, ces peintures sont une sorte de d'hymne à... une nature bonne, hein, même quand elle est simple, presque par essence, la nature est bonne, que ce soit les sources de la loue, le veau, la truite, les terrains, les plantes, la roche. Vous avez quelqu'un qui est effectivement très terrien. y compris dans ses couleurs, hein, et y compris dans la pesanteur, et même la saturation. Alors quand il fait le ciel ou la mer, il est capable effectivement de faire des choses très peu à coup, il a des coups de... Et remarquable figure, hein, assez complexe, parce que la main qu'il aurait pu mettre en perspective, là c'est une figure étonnante. Et alors là, elle est nue, moi c'est effectivement, alors, je vais vous montrer plus vieux, la jeune fille au petit chien là, avec des seins un peu bizarrement implantés ici, hein, des cuisses et un ventre, on va dire, assez généreux, des pieds qui semblent un peu sales, et parce qu'elle elle a marché dans la terre, au bord de l'eau, elle est aussi seule avec le chien, il n'y a personne, dans un soleil finissant, etc. Là encore, hein, elle n'est pas dans une posture abandonnée, ce n'est pas une allégorie, c'est juste un nu, alors, avec, il y a des ombres et des modelés, mais si vous regardez bien, c'est essentiellement les valeurs, la carnation, la surface de la peau, qui est traitée presque en profil.
C'est marrant, son avant-bras est bronzé. Comme si c'était des...
Oui. Alors ça, tiens, je n'avais jamais remarqué.
Non.
Et il est... Tu as raison de le souligner, parce que c'est quelque chose qu'on verra, y compris dans l'Olympia de Manet. C'est la blancheur de la peau protégée du soleil. Et donc, si ses bras sont dégagés, c'est peut-être que c'est une ouvrière.
Voilà, c'est quelqu'un
qui est dans le champ. Parce que, voilà. Et qui, elle aussi, bah, elle a le loisir de là, c'est vraiment au bord de la rivière, avec son petit chien, tout interdit. Alors là, il n'y a pas d'habit aussi. Hein. Ça, c'est aussi quelque chose qui est assez franc. Et toujours par des grands aplats, il est capable de traiter un paysage à quelques touches. Là, d'ailleurs, cette peinture. Alors là, c'est le sommeil qui sera considéré comme, là aussi, on est à la limite. Alors, c'est courbé toujours sur deux frontières. Parce que là, c'est quasiment une scène de lesbianisme, hein, de manière assez claire, abandonnée, donc des femmes entre elles, qui doivent rien à personne, qui ne sont pas abandonnées au regard voyeuriste, etc., dans des poses qui ne sont pas forcément élégantes, mais qui sont intimes, avec aussi des corps généreux, etc., et puis une agitation passée sans doute avec ici les perles, le collier, etc. Donc chez Courbet, il y a une dimension ici d'un érotisme très nouveau et différent. Et puis encore cette idée d'un corps qui pèse, d'un corps qui est un peu lourd, qui est abandonné. On n'est pas dans un... Et c'est quelque chose qui est très nouveau. Et totalement à contre-pied des poses artificielles de tous les nus du 19e siècle, tous les nus officiels du 19e siècle. Oui.
Comment elle a été perçue par la société?
Bah à chaque fois, toutes les peintures de Courbet sont caricaturées. Toutes les peintures de Courbet sont caricaturées, sont moquées par, on va dire, une sorte de critique bien pensante, etc. Mais, par exemple, vous avez effectivement tous ceux qui sont très contents de voir des vrais corps, des vrais physiques, des physiques qui sont des physiques pas du tout artificielles, pas des physiques de statues, pas des physiques de modèles, etc. Parce que tout d'un coup, il y a une sorte de vie d'entraide de Courbet qui est aussi perçu et qui fonctionne bien. Alors là, on est dans la carnation, le très délicat, les modelés, les chairs, le gras, regardez la main potelée, les pieds, etc. C'est quelque chose de très audacieux. Alors, cette peinture, elle est baigneuse. Alors, je crois que c'est celle-ci ou la source. Je crois que c'est les baigneuses qui a été victime d'un attentat iconoclaste de la part de Napoléon III. Carrément.
C'est-à-dire ?
Alors, c'est qu'en fait, cette peinture courbée, elle est parfois, ces peintures étaient quand même admises au salon. Je ne vous présente pas de manière tout chronologique, mais surtout la part thème. La peinture, les paysages, les dimensions sociales, là on est sur les nus, etc. Et quand cette peinture a été exposée, donc après 51, donc entre 50 et 60, je ne sais plus exactement la date, voilà. Napoléon III, évidemment, comme prince président, empereur, visite le salon en premier, etc., avec sa cravache, il arrive de cette peinture, et on dit, mais je pense que c'est vrai, il prend sa cravache, et la cravache, comme si c'était une pouliche, en disant, mais qu'est-ce que c'est que cette peinture, etc., comme si c'était effectivement un cheval, quoi, ou une jument, avec cette idée qu'avec ses hanches larges, etc., donc un truc à la fois iconoclaste, sexiste, évidemment, et totalement sommé d'un mauvais goût, effectivement, Napoléon III. Donc, vous voyez, c'est une peinture qui, les peintures étaient reçues, bah, par exemple, comme ça. C'est-à-dire qu'effectivement, parce que pour Napoléon III, c'était le comble du mauvais goût que de montrer un corps qui n'était pas un corps académique, qui était dans une pose naturelle, encore des femmes on va dire, entre elles. Hein, et puis...
Elle n'est pas détruite, la peinture, ce truc.
Non. C'était... Il n'y a pas eu d'amis. Et avec, y compris, regardez, les bas, les pieds qui sont enlevés ici. C'est, alors, on ne sait pas exactement quelle est la posture, est-ce qu'elles discutent, on ne sait pas quelles sont la relation. Hein. Les bas défaits, il y a quelque chose qui, effectivement, l'acte de débuter. Hein. Et ça, c'est leur, je pense que c'est leur vêtement et leur vêtement pendu ici aussi. Et cette espèce de nu dans la forêt, alors, il aurait pu appeler ça Diane, il aurait pu appeler ça n'importe quoi, mais pour moi, non, c'est vraiment la source, point. Et on retrouve, en fait, c'est toujours le même corps de la femme qu'on a vu dans l'atelier, où, en fait, c'est son même modèle. Hein. Et vraisemblablement, j'ai su son nom, j'ai oublié, on connaissait bien son nom, c'est sa compagne, hein. Et on retrouve à peu près le même visage, et le même type de physique, et le même type de coiffure. Donc là aussi, la dimension sociale et sociologique avec des habits très très simples. Les bras, pour revenir à ce que tu disais, on voit les bras exposés au soleil, soit une lavandière, etc. C'est peut-être des lavandières qui en profitent un coup pour aller se baigner, il n'y a personne, ils sont tranquilles. Mais aussi, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que c'est bête à dire, mais on est au 19e siècle, c'est le début aussi, on commence à avoir une redécouverte de la nature comme un loisir, comme un lieu de ressourcement. Il se trouve, moi j'habite dans la forêt de Fontainebleau, c'est à cette époque-là qu'il y a eu le Touring Club de France, mais à cette époque-là, mais c'est touring, c'est pas en voiture, c'est l'idée du tourisme, c'est redécouvrir la nature. Par exemple, la forêt de Fontainebleau a été protégée justement par ces gens-là et par les artistes. Quelqu'un comme Georges Sand, Victor Hugo, Corot, Millet, etc., ont défendu la forêt comme un lieu qui méritait d'être préservé. C'est-à-dire que tout d'un coup, d'un temps, ce sont des lieux accessibles à tous. Parce que tout d'un coup, on verra plus tard avec l'impressionnisme, c'est que ce retour à la nature, au bord de mer, à la forêt, au jardin, c'est aussi un contrepoison, un contre-pied à l'industrialisation, à l'urbanisation croissante. Et donc, cette idée aussi, c'est que ceux qui sont victimes le plus de l'urbanisation, qui habitent dans les taudis, dans les galtas, dans les vues, etc., ont aussi, tout d'un coup, la possibilité de se ressourcer dans une nature franche. Donc on n'est pas dans un joli jardin, on n'est pas dans un joli parc. Et on est dans un départ. Mais c'est quelque chose aussi qui est accessible. Alors ça énerve aussi les grands bourgeois qui pensent que tout doit s'acheter, se vendre, se contrôler, etc. Et qui pensent être les seuls à avoir un droit au loisir. Hein, les grands. C'est à cette époque-là que se créent les grandes villes balnéaires, les grands sites, etc. Les grandes folies, les grandes maisons, le style anglo-normand, etc. C'est la même époque. Et donc là, vous avez aussi une sorte de pied de nez. Hein, c'est que. En gros, vous avez l'affirmation qu'on a notre propre beauté, nos propres critères, nos propres lieux, nos propres loisirs, notre propre esthétique, nos propres goûts. Et en fait, on vous emmerde. Vous avez quelque chose qui est un peu de cette nature-là, chez Comé, qui est dit avec simplicité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de discours, mais c'est quelque chose qui est sous-jacent. Et on pourrait dire à peu près la même chose sur la source, hein, où là encore, alors la source, on a vu que pour lui, il y a quand même aussi une sorte de glorification discrète du nu féminin et du corps féminin comme associé à une nature simple, bienfaisante, originelle. Il n'appelle pas ça Ève, ni Vénus, ni Diane, etc. Hein? Et on voit évidemment que, on avait vu que la source de la loupe pouvait évoquer aussi l'origine du monde, ce qu'on va voir. Et là encore, alors. Il ne faut pas oublier aussi que le 19e siècle est peut-être le siècle le plus sexiste de l'histoire de notre pays et de l'Europe. Hein. C'est à cette époque-là, je reviendrai la prochaine fois avec l'académisme, c'est à ce moment-là peut-être que les genres sont le plus distingués et séparés. Juste par exemple, un exemple tout bête, c'est par exemple les habits. On verra c'est à ce moment-là que les hommes s'habillent tous en noir et blanc. À partir du 19e siècle, en gros, après Napoléon, après l'époque de Louis-Philippe, et là, au contraire, les femmes peuvent avoir des couleurs, robes, etc., et même elles sont un peu engoncées là-dedans, alors que les hommes sont un peu réduits à l'état de robots efficaces, noir et blanc, plus de folie, plus de fantaisie, etc. Donc il y a un genre s'affirme de façon extrêmement caricaturale, y compris, on le verra dans la religion catholique, bien pire qu'au 18e, 17e, 16e, 15e, 14e, etc. Le 19e siècle, de point de vue, c'est pas étonnant, puisque on est aussi dans une idée, et ça j'y reviendrai quand on verra l'impressionnisme, l'univers féminin étant associé infantilisé, associée à des forces qui peuvent être menaçantes parce qu'elles sont hors de contrôle. La Révolution française, d'ailleurs, même pendant la Révolution française, les femmes révolutionnaires ont fait peur puisqu'elles ont été interdites de club, y compris par certains révolutionnaires, qui ont trouvé qu'elles allaient trop loin, c'était incontrôlable. Alors qu'elles avaient été extrêmement actives dans la République, l'arrestation du roi, la reconduite du roi à Versailles, et dans les pétitionnaires, etc. Et donc elles vont être très vite écartées délibérément. De Gouges et Thérouanne de Méricourt, par exemple, ont été exécutées, etc. Et elles sont très vite écartées. Et donc ce sont des enjeux qui sont vraiment importants. Et tout ce qui est, rappelez-vous qu'une des normes idéologiques du XIXe siècle, c'est de contrôler les forces primitives ou premières. Matières premières, territoires étrangers, peuples étrangers, forces sociales, la nature qu'on va transformer, le charbon, les énergies, etc. Donc transformateur. Et l'univers féminin est associé à une nature un peu incontrôlable qu'il faut donc contrôler encore plus. Comme les enfants. D'ailleurs, une partie de l'école, c'est aussi pour contrôler les enfants, c'est pour les éduquer, mais aussi pour les contrôler. Donc cette idée de contrôler des forces qui peuvent être dangereuses, les seuls qui savent trop à contrôler, c'est les bourgeois, les inclus, ceux qu'on vient piger, ceux qu'on les code. Les classes ouvrières, les classes dangereuses, il faut les contrôler. Elles sont dangereuses, elles peuvent exploser tout le temps. Donc tout ce qui est associé à des forces premières est considéré comme potentiellement dangereux. Et donc, et on voit bien ici que, inversement, et ça, on le verra jusque chez les dadaïstes et les surréalistes. Inversement, pour, on va dire, les artistes et les intellectuels, en gros, progressistes, eh bien, l'univers féminin va être considéré, va être survalorisé comme étant une forte ressourcement, quelque chose de positif, quelque chose de proche de nature. Quand vous voyez Vanzola, La faute de l'avoué Mouret, je ne sais pas si vous avez vu, il y a des pages entières qui sont extraordinaires d'amour entre le curé et la jeune femme dans une sorte de jardin totalement idyllique. C'est un truc de baba cool mais complet. C'est fascinant quoi, le rapport. Moi, j'avais jamais lu, j'ai vu ça des récents. Et même dans l'œuvre, à un moment, le peintre va effectivement avec sa femme, mais ils sont aussi complètement à la campagne. Hein, vous avez cette idée d'un ressourcement, y compris chez les artistes très réalistes, parce que la nature et l'univers féminin, pour certains hommes, c'est aussi une façon d'échapper aux stéréotypes dont ils sont victimes, y compris en tant qu'hommes. Ils ont pas envie d'être coincés dans cette espèce de... plus ou moins clairement. Et Courbet, c'est assez clair. Et donc, il affirme, et y compris la subjectivité, hein, cette espèce de franchise, il ne veut pas mentir sur la femme qu'il aime, elle est comme ça, il la fait comme il veut. Donc, cette idée de franchise, on la trouve très clairement chez Courbet. Là encore, franchise au niveau de l'érotisme, des postures, etc. Alors ça, ce n'était pas des peintures qui étaient présentées au salon. Hein. Il y a eu des commandes de certains, je ne sais plus comment ils s'appellent,
diplomate.
Oui, diplomate, qui était un des protecteurs de Courbet, mais c'est un ami de Courbet. Oui, alors d'après votre proche aussi. Et alors, elle est très proche de la femme précédente qui était au petit chien. Voilà. Et puis, évidemment, là encore, cette femme, Aubin, toujours après son même principe. Et puis, alors, le fameux Origine du monde, ici, c'est la peinture qui a été faite par Yves Tanguy, je crois. Plus tard, c'est un peintre surréaliste qui l'a fait pour être mise devant le tableau de l'Origine du monde quand il était la propriété du psychanalyste Lacan. Hein. Donc, mais quand le commanditaire de l'Origine du monde, qui était ce sultan Bey qui lui avait commandé cette peinture, Courbet l'a faite, avec cette idée, c'est pas du tout une sorte ni pornographique, ni rableux, ni obscène, etc. C'est une sorte, et encore, c'est une sorte de franchise. L'Origine du monde, c'est très discret, même du point de vue, même on va dire, du sexe présenté, c'est presque allusif, etc. Mais alors, Courbet est extrêmement franc, et une des choses qui était absolument exclue de tout nu à cette époque-là, c'était la pilosité. C'était la pilosité, parce qu'on dit même que, je crois que c'est John Ruskin, le romantique que je vous ai présenté, qui était un grand romantique néoclassique, enfin, passionné par l'Antiquité, etc. C'est donc marié, et à sa nuit de noces, il est parti en courant quand il a vu le pubis non épilé de sa femme, parce qu'il ne savait pas Il était habitué à avoir tellement de statues antiques qu'il ne connaissait le nu féminin ou les nus que par les statues antiques ou les représentations. Il a cru avoir affaire à une femme monstre, etc. Et il est vraiment parti en courant. Donc vous avez ici, parce que pendant longtemps c'était associé aussi à l'animalité, il y a quelque chose qui était un peu brut, voilà, à quelque chose aussi qu'on ne contrôle pas. Les cheveux, vous savez que c'est un enjeu de la coiffure, même encore dans certaines cultures, tenir les cheveux, parce que les cheveux qui débordent, c'est sensuel, c'est l'animalité, c'est le corps, c'est la sensualité, tout ce qu'on veut. Donc, tout ce qui est pilosité, était donc, alors, à plus forte raison sur le pubis, mais à la même époque, je dis, Ruskin part en courant, donc c'est quand même assez drôle. Et vous avez là aussi la carnation, la chair, et puis, rappelez-vous, c'est les sources de la loupe. Et cette idée d'origine, une sorte de d'hymne un petit peu à la vie et au corps, et à dans ce qu'il peut avoir de plus originel, on va dire. Que ce soit les sources de la loupe, que ce soit le corps féminin, ou que ce soit cette vie-là. Origine de la vie, mais aussi enjeu de désir. C'est-à-dire que c'est cette idée aussi. Alors c'est comme le point de fuite. Et ça, Courbet abandonne toute perspective, quasiment dans ses peintures, mais les remplace par cette idée aussi de quelque chose qui vient vers nous, d'où l'on vient, mais aussi vers lequel on peut retourner. Cette idée aussi du on en vient, et puis en même temps le désir, etc. Donc, comme le point de fuite, qui peut être un point d'origine, mais aussi un point de destination. Et là, remplacer. Alors, on a prétendu trouver la tête de la femme, etc. Je pense que c'est un plein
exemple. Oui, c'était bizarre.
Alors, ça a été interdit longtemps, ou choquant longtemps. Alors, ceci dit, ce qui est marrant, c'est alors quand il était chez son commanditaire, il y avait un paysage. Hein. Ensuite, il y avait aussi même un petit rideau, donc c'est aussi un petit rituel de dévoilement, cette idée aussi de cacher, montrer, etc. Mais vous voyez que jusque dans l'origine du monde, Courbet a toujours cette idée de franchise. Quand il fait quelque chose, ben, il le fait à fond. Et puis, avec cette idée aussi de la frontalité. On a le nez sur le sexe. Quand on a le nez sur la peau, sur les cuisses, sur les fesses, sur la truite, sur le veau, surtout à chaque fois on a le nez de l'eau. Cette idée qu'il n'y a pas de, qu'il n'y a pas d'échappatoire, ça c'est quelque chose qui est clair chez lui. Bon, ça je passe un peu. Alors, attendez, je vais vous montrer ici. Avant de passer sur ces paysages et ces animaux, etc., Courbet en prison. Courbet en prison à Sainte-Pélagie, donc à Paris. C'est un autoportrait dans la prison, avec le foulard rouge des communards.
C'est après 70.
Après 70, après la commune. Parce que Courbet, en fait, a été reconnu pendant la commune de Paris, assez naturellement, connu, y compris ses prises de position, son audace, son liberté de pensée, etc. Le conseil de la commune de Paris choisit, et Courbet est élu comme en gros ministre de la culture, délégué à la culture de la commune de Paris. Et donc, il va avoir d'ailleurs une activité assez intéressante au niveau, je ne sais plus exactement dans les détails, mais il y a une pression qui lui est faite, qui est de détruire la colonne Vendôme. La colonne Vendôme était c'est politiquement très intéressant. La colonne Vendôme, c'était un peu le grand signe de la réconciliation des aristocrates, des royalistes et de l'Empire. C'est cette idée qu'en gros, le côté du monde, je veux dire, tous ceux qui avaient pu être du côté du pouvoir, qu'ils soient les rois Charles X, Louis XVIII ou Louis-Philippe, puis ensuite certains républicains bourgeois et Napoléon III, etc., se réconcilier. Parce que pendant longtemps, les aristocrates et les rois ont été opposés à Napoléon Ier, et Napoléon III, quelque part, réconcilie, c'est pour ça qu'on parle parfois de bonapartisme politique, c'est la capacité d'être au-dessus des tensions et fédérer des tensions contradictoires. C'était même tel que Napoléon III, vous aviez encore certains vieux révolutionnaires qui trouvaient que l'hommage à Napoléon, c'était quelque part une fidélité à la Révolution française. Mais les communards voient bien le piège, ils disent non. En train de nous faire une sorte de collaboration de classe, de nous faire croire qu'on pourrait tous avoir les mêmes intérêts, se retrouver autour de figures communes, et donc il est décidé d'abattre la colonne Vendôme. Voilà, signe de tromperie, effectivement, que en gros, les classes laborieuses ont été trahies depuis Napoléon par les rois par les républicains comme les faux républicains, comme Lafayette, comme Napoléon III, par les faux rois citoyens comme Louis Philippe, etc. Et donc, les d'abord de la colonne Vendôme, et donc Courbet assume la destruction de la colonne Vendôme. À la suite de la Commune de Paris, il a été emprisonné pour ça. On a considéré, il a arrêté, et emprisonné, je crois qu'il est resté plusieurs mois, hein, je ne sais plus combien de temps, plusieurs mois dans la Commune, et alors là, ça l'a complètement cassé psychologiquement. C'est donc quelque chose qu'il a usé. D'abord parce qu'il était à l'origine, il avait parrainé, il assumait quand même. Mais je ne suis pas rentré exactement dans le détail. Mais vous avez cette idée aussi d'une force blessée, qui est totalement écœurée, compris par la revanche des Versaillais. Les Versaillais contre la Commune de Paris, c'est un peu comme la Restauration contre la Révolution française, c'est une sorte d'esprit revanchard. Et là, vous avez effectivement un peu l'animal blessé. On retrouve le jeune homme à la pipe, etc. Et avec un foulard rouge dans un endroit totalement désert. Alors, on dit parfois que c'est aussi ce qui l'a amené à revenir à une peinture animalière, en gros. Mais avec souvent, par exemple, des animaux blessés. Ici, comme ce renard blessé, pris à la pipe, etc. Et dont le coq, effectivement, a été comme un piège pour l'attirer. Le coq attaché. Parce que c'est le coq français, le renard libre, etc. Bon. Vous avez aussi la lalie du cerf. Hein, il y a plusieurs figures où on voit un cerf. Alors, attendez, le titre de celle-ci, c'est Le chasseur allemand.
Pourquoi le chasseur allemand, on va dire que c'est...
Ah, pourquoi ça ne zoome pas
là ? Ah, tiens, ma roulette ne marche plus.
Alors là encore, vous avez un cerf blessé. Alors, Courbet aimait beaucoup la peinture animale, la peinture animalière, mais aussi cette idée aussi, vous voyez, d'une nature un peu sauvage, des animaux un petit peu beaux, sauvages et libres, qui tout à coup sont traqués, harcelés, blessés, donc une sorte d'ampleur. Avant, moi, j'aimais pas du tout ces peintures, en fait. Et celle-ci, l'Alali du cerf, qui est une très grande peinture avec un très beau chromatisme de blanc et de bleu glacé, dans laquelle vous voyez effectivement eh bien, le bel animal blessé par des chiens qui sont ici, effectivement, la meute. Et le geste extrêmement effroyable, un petit peu, de ce chasseur qui fouette l'animal blessé, une sorte de piteuse revanche, etc. Et toute la noblesse du cerf qui se détache. Donc, avec toujours une sorte de surface remarquable, de grande délicatesse des tons. Alors, par contre, j'ai pas de meilleure représentation de celle-ci. Je sais pas pourquoi j'ai pas trouvé. Alors là encore, les daims dans la forêt, alors là c'est même plus des nuits, on est vraiment dans une sorte de repli, on retrouve presque à une sorte de nature brute. Alors je crois qu'il y a eu quand même des amateurs pour ça, ce sont des grandes peintures avec une très grande finesse aussi des pelages et des couleurs. Alors là dans des tons vert et brun, alors là aussi un petit clin d'œil sur le vert et le brun et le gris, parce que presque dans le même temps, mais juste après, quelqu'un comme Manet va reprendre exactement ce chromatisme-là. Parce que c'est ce qui est le moins spectaculaire. C'est juste un truc tout bête. Baladez-vous un jour d'automne, si le ciel est gris, vous avez un peu de verdure dans les champs, et la terre labourée marron, et les routes grises, ce qu'on appelle monotone au sens strict. C'est plutôt un peu déprimant. Est-ce que c'est le même ton, en fait ? Au sens strict, monotone, c'est le même ton. C'est le vert, le gris et le brun sont du même ton, la même tonalité. Alors que le jaune, le rouge, le bleu, etc., vont une sorte de dynamique beaucoup plus vaste. Mais, or, pour quelqu'un comme Courbet, Courbet pressent, et ensuite Manet va le réfléchir et Manet va le comprendre encore plus clairement, pressent que si on traite la surface, si on veut affirmer la surface d'une peinture, eh bien, il faut éviter de jouer sur la luminosité et sur les tons comme les rouges, les bleus et les jaunes, qui au contraire vont spatialiser, comme par exemple ce que fait Mondrian plus tard, si vous avez, ou Matisse. Vous avez un rouge, c'est pas plat, un rouge, c'est lumineux. Ça, tout à coup, il y a une sorte de. Il y a un espace dans le rouge. Il y a un espace dans le bleu, il y a un espace dans le jaune. Alors que le brun, le vert et le gris affirment cette espèce de frontalité. Et donc, les artistes comme Courbet, plus ou moins consciemment, sentent que s'il veut être encore plus réaliste, il faut qu'il évite la séduction des peintures tonales, comme le rouge, le bleu, le jaune, le violet, l'orange. Vous voyez un petit peu le. Et dans cette animalité, etc., alors là, c'est pas bleu, là aussi, on est dans blanc, gris, noir, alors le blanc, le gris, les bruns, les verts, etc., hein, parce qu'on est là dans une sorte de travail de surface, en fait. de composition sur la surface, d'affirmation de la surface, comme ici. Alors celle-ci est très très belle, hein,
magnifique.
Alors peinture de neige, hein, elle est... Alors là on est presque dans du Constable au niveau de la peinture, on est presque dans une peinture non figurative, abstraite, hein, et aussi là, une peinture épaisse et très délicate. Alors évidemment, hein, vous voyez ça, pouf, quelques années après, vous avez Monet, la pile sur la neige, etc. Que, là aussi, la neige, bah, c'est une surface. Hein, et les silhouettes. Alors, toutes les peintures animalières de Courbet, avant, c'était...
C'est extraordinaire, la position de l'animal, un peu comme un point centré. Là.
Oui, mais, et au centre de cette
azote. Quel est le nom du tableau?
Là, c'est Bichevreuil à Lyon. C'est au musée de Lyon. Alors, ce sont des grandes peintures. Donc en fait, ah, c'est très grand, ça fait plusieurs mètres. Hein. Ouais, ça fait genre 3 mètres en général. Là, la ligne du cerf, je crois qu'elle fait 3 mètres de large sur 2 mètres de haut. Hein. Donc c'est des plates. Là encore, vous avez toujours cette idée que l'échelle est réelle. On n'est pas dans l'illusion. Hein. On n'est pas dans les tiens, je regarde une petite fenêtre au loin, je suis dans le paysage. Je sais pas. Il y a toujours à éprouver cette... Quand on parle de frontalité, c'est une présence. Donc présence physique. Alors, ça aussi, c'est pour ça que Courbet, l'air de rien, c'est un peintre qui va initier une multitude de pratiques, y compris, je parle de Monet, mais Monet avec les masses, l'échelle 1, la présence, la frontalité, la dimension pour ces sujets-là, le travail sur la surface. Courbet, alors, par contre, il passait, tout le monde disait qu'il était bête. C'était un gros, un peu lourdeau, bête, avec le peintre, mais qui n'avait pas d'idée. Il faut qu'il savait très bien ce qu'il faisait. Mais la réputation de Courbet, c'est que c'était un peu un gros buveur fêtard, mais un peu niais, un bon peintre, mais bête. Parce qu'effectivement, mais point, non, Courbet, ok, bah, c'est un blanc. Et alors après, quand on regarde, là, vous voyez ce que je vous dis sur les tons, hein, monotones, et en même temps, cette espèce de. Puisqu'on n'est pas dans la séduction apparente, on n'est pas dans. Les couleurs spatiales, tonales, etc. vives, eh bien, on va jouer uniquement sur des moyens limités. Ces moyens limités, ben, on va les nuancer à l'extrême. Là, vous avez des tons, là, sur les gris, les bruns, les fauves, qui sont d'une très, très, très belle subtilité, y compris ben, l'espèce de lenteur. Puis, chez Courbet, il y a quand même aussi ce côté travail, un peu laborieux, enfin, d'origine. Presque rural et provincial, où il y a cette idée aussi du labeur. La fascination qui est là pour aussi pour les travailleurs, les travailleuses, c'est cette idée que il faut en donner, quoi. Faut aller au. Vous avez vu, il va sur le motif, il va sur le terrain, et il s'habille presque comme un ouvrier. Quand il peint Proudhon, c'est comme un ouvrier. Donc, y compris le travail, c'est aussi la belle ouvrage, c'est prendre du temps, maîtriser son affaire, etc. Vous avez chez lui cette dimension-là, laborieuse, totalement assumée. Ah, ça s'appelle la toilette de la mariée. Donc, c'est un complètement exceptionnel dans la peinture de Courbet, mais ce qui est horrible, c'est qu'en fait, à l'origine, c'est la toilette de la morte. Et parce que la mariée que vous voyez ici, ben, en fait, il a juste un peu coloré le visage, parce qu'à l'origine, elle était pourquoi vert et blanc, enfin verdâtre, etc. Et c'était la toilette de la morte, parce que c'est pas du tout, y compris les draps, le blanc, etc. C'est la toilette de la morte. Donc,
pourquoi est-ce qu'il a changé là?
Ah, je sais plus.
Mais je crois que. Est-ce que la couleur de la mort, c'est pas plutôt le noir?
Ah oui, donc je parle de la le linceul blanc, et puis dans le deuil, mais là, pour la partie toilette, c'est pour ça d'ailleurs, il y a du noir ici, il y a un catapulte.
Ah, d'accord.
Donc, mais par contre, je ne sais même plus où elle est, c'est ici. La toilette de la mort, ça c'est moi qui l'ai dit. Alors, je voulais vous montrer quand même justement ce que je vous disais sur les caricatures de Courbet, parce que c'est très symptomatique de la façon dont il est vu et perçu. Alors, Courbet, alors attention, vous avez vu, c'est pas que Courbet, en fait, c'est. L'enjeu est très vite, on l'a vu avec Turner, l'autre jour, ça va être Courbet, y compris avec les impressionnistes. En fait, on peut presque les mettre. En fait, c'est des peintres libres, qu'ils soient impressionnistes, romantiques ou réalistes, en fait, c'est une sorte de même. Couloir, c'est une branche avec des ramifications, mais qui s'opposent à l'académisme, justement, et au néoclassicisme. Et qui sont, comme je vous l'ai dit, assimilés. Alors, vous voyez, c'est l'idée de le côté blafard, verdâtre, brun, marron, gris, on voit bien cette idée. Alors, le paradoxe, justement, c'est que les impressionnistes, c'est ça qui est drôle, c'est que les réalistes vont s'écarter des couleurs pures, mais les impressionnistes vont les réhabiliter totalement. Vous avez. En gros, le passage du réalisme à l'impressionnisme, c'est le passage des couleurs monotones, au sens strict, à la couleur pure. Et c'est Manet qui va le faire. Manet, c'est celui qui passe vraiment de l'un tac, à l'autre. Manet, il passe des couleurs brun, gris, vert, marron, blanc, noir, il passe progressivement à la couleur pure. Hein, et évidemment, il entraîne avec lui, Volet, toute la bande, etc. Mais ils ont tous quelque chose de clair, c'est que la peinture, le travail, y compris, hein, vous voyez, alors les caricatures sont assez drôles. Celle-ci, madame, ce ne serait pas bon pour votre état, donc c'est une femme qui est enceinte. Exposition des peintres, alors impressionniste, c'est toujours la même chose. Soyez prudente, retirez-vous, etc. C'est pas bon. Parce que tout à coup, c'est comme s'il y avait un accident de grossesse, rien qu'en voyant des peintures qui sont tellement sauvages et violentes. Là, je l'ai montré l'autre jour, indépendante de leur volonté, du côté de l'incantation, au barbouillage, ça c'est assez clair. Alors là encore, le peintre impressionniste, mais ce sont des tons de cadavre, oui, mais je ne peux pas arriver à l'odeur. Alors là, c'est franchement, effectivement. Mais ce qui est drôle, c'est qu'on est dans une période où les impressionnistes sont assignés aux impressionnistes des peintres qui traitent aussi des couleurs qui ne sont pas encore des couleurs pures. Des couleurs vives. Parce que les tons de cadavre, c'est quand même le brun, le vert, le gris. Oui.
Pourquoi on le traite d'impressionniste puisqu'on a dit qu'il était réaliste?
Ah non, mais là, c'est des caricatures qui sont. C'est pas sur Courbet pour le moment.
Ah, bon,
ça, c'est des caricatures qui sont postérieures, mais c'est pour montrer en fait c'est une continuité. Mm-hmm. C'est une continuité, c'est des peintres qui, en gros, semblent lâcher le contrôle et y compris se vautrer au sens strict dans la matière de la boue. La boue, le cadavre, etc. Donc ces deux couleurs, je dis brun, vert, gris, qui sont des couleurs assimilées aussi au cadavre, à la mort, à la boue, au travail, à la terre, etc. Donc vous avez aussi toute une connotation, et vous allez voir, ça va loin aussi de
vendre par le bourgeois aussi est bien caricaturé. Hein.
Ah bah bien sûr. Là, regardez, plusieurs toiles de l'exposition des impressionnistes pour en cas de guerre, pour faire peur. Donc, une arme de destruction. C'est quand même très drôle. Alors là, oh, secours, quelle horreur. Alors voilà Courbet. Maintenant, on arrive vraiment à Courbet.
Ah, d'accord.
Alors, j'ai tordu un peu la chronologie, mais c'est parce qu'en fait, c'est un ensemble. Si vous voulez, il y a une liaison naturelle, impressionnisme, réalisme, romantisme, réalisme, impressionnisme. Une sorte de filiation, hein, qui évoque aussi avec la période. Et on voit que Courbet était représenté ici, petit, je ne sais pas pourquoi, hein, avec des sujets comme par exemple, on voit les vaches ici, on voit les veaux, on voit le sujet du peintre réaliste, ben une feuille. Hein. Donc, ce qu'on voit dans ses peintures, la façon dont il affirme les feuillages, etc., de façon très claire, là, le caricaturiste le comprend bien, et paf, et la frontalité aussi, la surface. L'air de rien, les caricaturistes comprennent très bien ce qui se passe.
Dans la main,
ça, c'est sa palette, et ça, c'est un verre de bière. C'est un grand buveur, un grand mangeur.
Il n'arrête pas de boire.
Il sera souvent caricaturé comme tel. Là, vous le voyez, justement, père du chêne, en communard. Alors, il abat tout dans son colonne Vendôme, y compris, sur une sorte de bourgeois chien, etc. Et Courbet, donc, vous voyez, c'est un personnage qui était populaire, au sens là, dans les caricatures. Alors, pour forcer le trait, on le représentait souvent assez gros, barbu, à tête en l'air, etc. Et puis, les chemises relevées, pantalon bleu, un habit d'ouvrier, etc.
Citoyen Courbet.
Le citoyen Courbet. Alors là, voilà, alors, la mégalomanie Courbet aussi. alors toujours la vierge, vous avez vu, la palette aussi, avec la barbouille, etc. Les gros pinceaux, le côté un peu volontaire qui s'affirme. Et puis les autoportraits assez incroyables. Là encore, au grand maître, la partie reconnaissance, peinture en tout genre, courbé, ah oui. C'est le vieux et le neuf, président, etc. Donc, actualité, donc sur la colonne détruite. Donc, alors, ce qui est intéressant, c'est que vraiment au XIXe siècle, c'est aussi l'éclatement de la presse. Oui. La presse devient. Et donc, il y a un enjeu de l'opinion publique, qui est donc du débat public. Et Courbet, c'est un des premiers, d'ailleurs, artiste qui va vraiment jouer de ça aussi. À la limite, quand on parle de lui, quand on critique, il s'en fout un petit peu, au contraire. Ça le popularise, il devient un enjeu. Donc, il sait très bien que quand il fera quelque chose, il y aura du travail, etc. Donc, c'est aussi, il est très politique, hein, et politique et médiatique, évidemment. Et il affirme assez une liberté par rapport au jugement des autres, puisqu'il est brave au sens strict, le jugement dans ses caricatures. Alors là, voilà, c'est la Lalie qu'on a vue tout à l'heure. Monsieur Causse, donc vous avez montré la belle peinture, etc. Et là, chasseur cherchant à guider les animaux d'un cerf par des exercices d'équilibre les plus cocasses. Donc, la posture, etc. Les chiens sont plus.
Mais pas de cerf, là.
Alors, celle-ci, les lutteurs. Lutte entre les adorateurs de la Vénus. Alors, ça, c'est la Vénus noire. La Vénus noire, etc. La Vénus autour, etc. Et vous avez cette idée aussi qu'ils sont. Alors, on verra aussi les lutteurs qui sortent d'un sac de charbon. Ce sont des charbonniers. Alors, les caricatures aussi, juste l'Olympiade Manet, par exemple, on va dire que c'est aussi qu'on ne peut pas s'approcher d'elle sans se boucher le nez, ça sent le cadavre. Qu'elle a été peinte aussi avec du charbon, qu'elle a un ton verdâtre, etc. Donc, si vous voulez, c'est l'idée de la saleté. Parce que la saleté, c'est assimilé aussi à la boue, à la terre et aux classes populaires. Hein, qui d'ailleurs vivent dans des taudis, dans la crasse, le Paris est sale, c'est vrai. Donc, alors voilà, aussi. Même quand il est jeune, c'est le Courbet plus jeune, Courbet chantant sa gloire, Courbet de face, donc là, quand il était plus jeune et plus maigre. Là, vous avez aussi Courbet blessé, Courbet enrhumé, donc avec un gros pot de pinceau, puis la toile brute, etc. Celle-ci, alors, monsieur, bienvenue.
Bonjour,
monsieur. Bonjour, monsieur Courbet. Alors, ceux-ci sont totalement agenouillés, et quasiment. Oui, l'artiste a bien vu la diligence et le terrain totalement plat, donc vous voyez que. Les caricaturistes ont l'œil, évidemment, aigu, hein, ça, c'est très clair. Là, c'est une peinture de Courbet qui a disparu, mais qui était à la limite aussi de la caricature anticléricale. C'est le retour de... attendez, le retour de la paroisse, attendez, juste le titre, c'est... Le retour de la conférence. C'est une gravure d'une peinture de Courbet qui a disparu, où il présente justement les moines et les curés, comme complètement sous, paillard, ils vivent rigolards sur leur âne, etc. Ils sont allés à une conférence religieuse, et en fait, bon, il y a une femme qui prie à genoux, etc., mais les autres s'en moquent. Donc, alors là, le côté aussi anticlérical, hein, c'est manifeste, sur Courbet, il n'y a aucune peinture religieuse. Hein, et c'est aussi quelqu'un qui affirme très clairement une indépendance d'esprit par rapport à la religion, ce qui, au 19e siècle, s'affirme de plus en plus, mais quand on sait que la religion a été instaurée de façon presque pire que dans les siècles précédents, par Charles X, comme ayant en charge quasiment toutes les écoles, la confession, notamment la confession des femmes, l'éducation des enfants, et ce qui sort maintenant, vous imaginez que c'était encore pire certainement au XIXe siècle, hein, l'abus, etc. Et surtout que ça a été livré, l'éducation, la religion, à une confrérie essentielle, parce que en fait, la tradition catholique est très variée. Niveau philosophique, théologique, etc. Mais ça a été livré à une seule confrérie qui était idéologiquement totalement proche du pouvoir, c'est les Saint-Sulpiciens. C'est une confrérie de Saint-Sulpiciens qui sont établis à Saint-Sulpice à Paris et qui avait en charge quasiment toute l'éducation, la confession, y compris le contrôle de toutes les populations, mais surtout femmes et enfants. Confession et éducation. Donc ceux qui faisaient le plus peur, hein, ceux qui étaient qui vraiment disciplinés et domptés. Donc, si vous voulez, même le côté philosophie catholique qui pourrait exister, avec des pensées beaucoup plus ouvertes qui a existé dans les siècles précédents, tend quasiment à disparaître derrière une église de propagande pure. Et ça, c'est mis en place très clairement par Charles X, Louis XVIII, et ensuite, c'est laissé. Alors après, ça craque un peu dans tous les sens, il y a des forces qui s'opposent à ça. Mais c'est la religion au XIXe siècle, c'est quelque chose où je vous amuserai, je pense, en vous montrant des trucs à piquer des verres. Alors, je continue, une caricature. Si j'ai terminé ça. Alors, ça, vous voyez, l'actualité. Alors, regardez comment il peint justement sa femme. Le peintre de Courbet, le gamin, et puis alors les amis, Baudelaire dans son petit coin, la toile à l'envers, et puis Courbet, qui part là, avec il finit la gueule. Et voilà, effectivement, la truc de grimace de la femme. Là, c'est les baigneuses. En sabots, avec des postures grotesques, et puis trois traits pour faire. Alors, vous voyez, donc ça s'adressait, qu'est-ce qu'il fait là ? Ça, c'est mal. Ça, on a déjà vu. Alors, ça s'adressait aussi à des gens évidemment, qui avaient vu les peintures. Parce que bon, ça veut dire que ces espèces de festivals de peinture, ces salons, drainaient beaucoup de gens. Il y avait du monde qui venait voir ça. Il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de truc, donc si vous voulez. Les salons de peinture étaient très cool, c'était pas que par des bourgeois, il y avait vraiment aussi un côté populaire, mais alors, monsieur, ne voulant pas rester l'objet de monsieur Courbet, monsieur de Sainte-Beuve lui fait cadeau d'un cheval comme il les aide, là, le son de cheval. Sainte-Beuve, c'est le critique d'art un peu l'ennemi de Proust, etc. et toujours un cheval un peu tordu. Alors ça, la caricature d'époque, c'est aussi un enjeu important, par exemple les caricatures de Daumier. On verra que Daumier, justement, c'est un caricaturiste qui est aussi un peintre. On verra un peu sa peinture, ça c'est du Daumier. Ça, c'est toujours du Daumier sur les caricatures sur, en gros, les bourgeois qui sont tous des masques du pouvoir. Et autour de Louis-Philippe, la poire. Hein. Donc, en fait, toutes les figures des députés sont que des avatars du pouvoir. Derrière Louis-Philippe, en fait, tous les députés ce ne sont finalement que des masques, mais derrière eux, il y a toujours le pouvoir. C'est comme si on disait ça de nos élus en marche, et derrière, il y a Macron. Donc, ça serait scandaleux de dire ça. Juste une chose pour sur, un petit, sur la caricature, pour vous montrer aussi que. Bon, je saute un peu, c'est pas grave. Des caricatures, j'en reparlerai, mais ça, c'est un petit chapitre sur la caricature. Quelqu'un comme Monet, dont on dit que Monet fait que l'État, etc. Monet a commencé à gagner sa vie à cette période-là, quand il était jeune, en caricaturiste. Ça, ce sont des dessins de Monet caricaturiste. Pourtant, quand on voit les Monet, il n'affirme pas du tout la précision du dessin. Hein. Mais Monet est un très grand caricaturiste avec une très grande précision, comme par exemple ici. Hein. Ce sont des caricatures de Monet. On voit finesse du gris, du dégradé, du trait. Qui ont, ça. Là aussi, on est parfois assez surpris. Et ça aussi, encore des caricatures de Monet, hein, impressionniste, très clair. Et ça, on voit aussi l'écart. Hein, quand les artistes peignent, ils font un écart entre leur pratique de dessin et leur pratique de peinture. Il y a des choses qui sont... Alors voilà. Je reviens, je suis désolé, j'aurais dû les ranger un peu mieux. Voilà les caricatures des lutteurs. Hein. Alors là, les lutteurs, il y a plein de phrases. Alors, attendez, je vais essayer de zoomer parce que c'est des vrais discours. Mais... Alors là, toutes les postures ridicules. Alors, c'est les lutteurs d'ALM Autain et ceux de Courbet. Alors, par exemple, j'ai essayé de chercher sur Internet ce que c'était ALM Autain, j'ai rien trouvé. Et ça, c'est un vieux document que j'avais quand je passais les concours, quand j'étais étudiant. C'est ça que j'avais perdu, j'avais scanné à l'époque, j'avais fait des photocopies, c'est pas assez précis. Mais je sais pas ce que c'était l'ALM. Est-ce que c'était un truc de lutte? Mon Marquois, mon Parano, je ne sais pas quoi. Et donc, vous avez cette idée aussi, les postures grotesques, l'air méchant, sale. L'Olympia de Manet, on verra ça une autre fois. Encore les lutteurs, les adorateurs de la Vénus. Encore les lutteurs de Courbet. Hein. Et, alors, je ne sais pas ce que c'était, ALM Autain, je n'ai pas trouvé ce que c'était. Mais toujours cette espèce de côté un peu grotesque que l'on voit. Et Manet, alors oui, puisque j'y suis, je vais parler de Manet. Celle-ci... Alors, chez Manet, regardez, dans la naissance du petit Ulysse, Manet, les lettres de faire part. Alors, faire part, effectivement, l'idée, c'est quand même, l'idée que c'est une prostituée. Pour la remercier, donc, vous avez effectivement les lettres et les fleurs envoyées par la mère Michel, qui est noire dans la peinture de Manet. Manet aussi avait inversé la nudité qui était très codée, on pouvait représenter des femmes nues, à condition qu'elles ne soient pas des occidentales blanches. Surtout si ce n'était pas des allégories. Donc, il y a aussi ça aussi chez Courbet qui choquait, c'est que ce n'était pas des allégories. C'était des nus de femmes blanches occidentales. C'est aussi quelque chose qui était très choquant. Hein. Et Manet aussi. Manet présente une femme nue, il appelle Olympia, mais c'est pas des nus. C'est pas... Et la femme habillée, c'est une femme noire. Alors, en général, c'est le contraire. Et vous avez ce petit chat noir qui est comme un fait de figure dérangeante, etc. Et aussi le côté très sec, un petit peu pas du tout, on va dire, dans une pose alanguie, hein, du nu de l'Olympia. Alors là, les lutteurs, effectivement, je dis le noir, la saleté, la crasse, entre guillemets. Et là, les lutteurs avec des varices comme ça, M. Bollière a bien raison, la peste de la varice, c'est de M. Bollière. C'est vraiment les blagues, Almanac Vermeau, etc. Ça, c'est assez clair. Voilà, bah, j'ai fait un petit tour sur certaines caricatures. C'est l'heure, de toute façon. La prochaine fois, je ferai un petit coup, je vous ferai là, sur Millet et Daumier. Avant de commencer, alors ça j'aime bien, parce que c'est terrible, la peinture que je vous montrerai, et sur laquelle j'ai commencé, c'est celle-ci, c'est pour vous montrer quand même. Juste pour éclairer, c'est Braine recevant sa part de butin. Voilà une peinture académique typique, et qui en dit long sur tout, sur le 19e siècle, etc. Donc, je ferai une pause. Comment c'est le butin, ce sont les femmes et l'or, l'argent, etc. C'est le butin. Donc, quand on voit ça, on est courbé, là, vous avez une tension assez claire. Donc je continuerai beaucoup et j'ai des tonnes de choses que je trouve assez drôles sur l'académisme. Mais on comprend beaucoup mieux les autres en voyant ça.